Europe 1.
Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe sauvage, la compétition haletante qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G et sous l'œil de ma précieuse Eva Roque. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous serez comme d'habitude Eva, la grande arbitre de ce combat décisif qui se déroule chaque après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Combat qui vise à déterminer qui parmi les journalistes de la rédac aura droit à une augmentation et qui, au contraire Eva, finira
dans des chambres de bonne avec toilettes et point d'eau sur le palier.
Oh non.
C'est le destin qui les attend. Avant de vous présenter nos champions, vous le savez, chaque après-midi, en attendant de pouvoir les accueillir à nouveau en studio, nous sommes en ligne avec des personnalités qu'on aime. Aujourd'hui, un dessinateur qui fait marrer les jeunes, mais aussi les moins jeunes, surtout avec son dernier ouvrage, Happy Sex 2, réservé aux adultes. Bonjour Zep.
Bonjour.
On vous avait reçu pour Happy Sex 2 il y a quelques temps maintenant. Vous étiez confiné en Suisse, chez vous. Vous me dites que vous êtes du côté de Genève, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Est-ce que votre atelier, il est chez vous? Est-ce que le confinement, finalement, n'a pas changé grand-chose pour vous? Certains auteurs nous disent que c'est nous qui avons découvert la vie d'auteur.
Exactement.
Durant ce confinement.
Bienvenue dans notre quotidien. Moi, ça fait 30 ans que je suis confiné dans mon atelier. Et ça va, ça n'a pas été un gros choc.
Mais sauf qu'il y a quand même les enfants. La dernière fois, j'avais fait une gaffe. Je m'étais trompé sur le nombre d'enfants. Il y en a 5, c'est bien ça, Zep?
Oui.
Bon, ça, 5, c'est le chiffre réel, mais en confinement, le chiffre ressenti, c'était quoi?
On va dire 50.
Fois 10.
Alors, Zep, on va parler de ces dessins que vous avez publiés pendant le confinement, de la nouvelle édition qui arrive de l'album culte d'une génération, le guide du zizi sexuel. Moi, perso, c'est là que j'ai tout appris. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Premier duel chargé en testostérone, puisque la paire infernale Mbida de Tarlé est reformée. Calmons-nous, messieurs. Je vais vous présenter d'un côté de notre ring journalistique cet expert innovation qui, lassé qu'on lui reproche ses sujets sensationnalistes ou racoleurs, a tenté lundi un sujet sur les trottinettes électriques et qui, ayant sèchement perdu, revient à ses fondamentaux. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes en mesure de rassurer votre fanbase aujourd'hui, c'est bien de sexe dont vous nous parlez.
Oui, de robots conversationnels qui sont capables de parler de cul, on va le dire, de façon même très très crue. Vous allez voir, c'est beaucoup moins graveleux que ça en a l'air. Ça pourrait même nous aider dans nos relations de tous les jours, vous allez voir.
J'en reviens pas de la phrase qu'il vient de prononcer, quoi.
Et tout oui.
Non, je suis choquée.
Face à vous, Alice, votre ennemi juré. L'expert écho d'Europe 1, enfant du libéralisme débridé, qui s'est égaré un temps pour ratisser plus large sur les terres dangereuses du keynésianisme, voire de l'écologie, et qui, heureusement, est revenu dernièrement à la maison.
Et je reviens au MEDEF.
Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous allez tenter de battre Alice avec un sujet beaucoup moins sexy que les sexting bots, la question de l'actionnariat salarié.
Voilà, moi je ne... Pourquoi il y a cette musique sur mon sujet très sérieux?
C'est pas sexy.
J'ai décidé de ne pas miser sur votre sexe, mais sur votre cerveau, en vous parlant de l'actionnariat salarié, qui est une idée et de droite et de gauche, et avec cette idée consensuelle, je compte bien l'emporter.
Miser plus sur mon cerveau que sur mon sexe, voilà un pari audacieux. Axel, le programme est donné, l'équipe est sauvage peut démarrer.
L'équipe est sauvage.
C'est donc le célèbre dessinateur Zep, créateur du personnage de Titeuf, qui nous accompagne un peu cet après-midi. Vous faites partie, Zep, de ces auteurs qui non seulement nous ont accompagnés sur la toile pendant cette crise sanitaire, mais vous êtes aussi de ceux qui se sont engagés concrètement. Et qui d'autre que Titeuf, qui vous suit depuis bientôt 30 ans, pour incarner cet engagement. C'est la première crise sanitaire que traverse Titeuf.
Oui, c'est la première. J'espère qu'il n'y en aura pas 50, mais...
Vous avez participé avec d'autres dessinateurs à la campagne de prévention Stop Covid-19, en réalisant des affiches à l'attention des écoles, des salles d'attente chez le médecin, afin d'expliquer aux enfants les bons gestes pour se protéger, et protéger les autres aussi du virus. Un dessin, ça peut être... plus efficace finalement, surtout auprès d'un jeune public, que n'importe quelle campagne gouvernementale, officielle, un peu chiante, qu'on peut le dire.
Ouais, un peu chiante. Et puis aussi, y avait énormément de discours de tous bords. Tout le monde s'est autoproclamé expert, donc c'était bien un moment de rassembler tout ça et puis d'avoir le discours officiel des hôpitaux, qui même si il a changé plusieurs fois au cours de la crise, et je pense que dans les mois qui viennent, on va encore nous dire qu'on a fait plein de conneries, mais il fallait un moment tenir un discours fixe. Et puis c'était une manière de le faire passer de façon un petit peu plus marrante, parce que bon, c'est clair que ça a été une crise dramatique, il y a des gens qui sont morts, mais majoritairement ça a plutôt atteint tout le monde dans des gestes du quotidien, en nous forçant à vivre une vie un peu étrange en fait, à porter des masques, pour les gamins se laver les mains 10 fois par jour, vous imaginez le choc. Donc tout ça, c'était plutôt prétexte à faire des dessins amusants.
Vous, d'un point de vue personnel, comment vous avez vécu cette période? Beaucoup d'artistes nous disaient qu'ils avaient eu, justement, que c'était, même s'ils étaient confinés, c'était pas une période propice à la création, parce qu'ils étaient un peu sous le choc, ils ressentaient une forme de sidération. Est-ce que ça a été votre cas, ou bien vous avez été créatif comme d'habitude?
Non, moi j'ai trouvé que c'était assez agréable. C'était, disons qu'on était plus sollicités, parce qu'on nous a beaucoup sollicités pour les réseaux sociaux. Mais mis à part ça, moi je travaille sur mes livres, et puis comme je vous dis, ça fait 30 ans que je travaille dans un atelier qui est chez moi, donc à l'étage, ça fait que ma vie, elle est de passer du rez-de-chaussée au premier. Ça m'a pas bouleversé énormément.
Vos enfants, parmi cette ribambelle d'enfants que vous avez, on peut le dire, est-ce que justement vos dessins de Titeuf,
vous les avez testés
prenant
sur les
règles
enfants, ouais,
de distanciation sociale, ça marche sur eux? Vous les avez testés sur vos
ouais,
propres
ouais,
enfants?
Ouais, ça marche. Bon, la plus petite a 12 ans, donc maintenant elle commence à être assez grand, mais oui, oui, on a vu un petit peu, effectivement, eux, ils soulèvent tous les paradoxes quand on leur dit, voilà, il faut faire ça, mais ça, on peut pas jouer au foot, mais on peut aller au magasin, ils comprennent pas trop. C'était aussi assez difficile de les contenir dans leur envie sociale. On a été moins confinés, moins durement en Suisse qu'en France. On n'avait pas un confinement aussi strict que vous. Donc on pouvait sortir, on pouvait croiser des gens, les voir, mais à distance. Alors nous, c'était 2 mètres. Hein. Vous, je crois que c'est 1 mètre.
Oui.
Nous, c'est 2 mètres. On a imaginé que, comme on s'exprime un petit peu moins bien que les Français, on doit postionner un peu plus, j'imagine. Donc ça doit être quelque chose comme ça.
Et comment ça se passe quand un Suisse croise un Français?
Il a très très peur. On se demande comment il a pu traverser la frontière, parce que c'est assez compliqué quand même.
Oui,
on a mis des blocs en béton, enfin, on a l'impression d'être revenu dans les années de la guerre. Quoi.
Comment vous disiez que vous étiez très sollicité dans cette période en tant que dessinateur, comment vous choisissez de participer à tel ou tel? Ça doit être difficile de dire non. Vous avez participé, j'ai vu, à la campagne café et chocolat pour les soignants.
Ouais.
Ça, c'est votre côté suisse, on ne peut pas refuser quelque chose qui en a très
bien.
Chocolat quand on est suisse, voilà.
C'est vrai que j'avoue que j'ai du mal à me mobiliser pour, par exemple, pour applaudir tous les soirs. Je me sens un peu couillon sur mon balcon à applaudir. Mais je trouve ça super. Et quand il y a eu le message de soignants qui ont dit, écoutez, c'est sympa, ça nous fait chaud au cœur, mais c'est vrai que ce serait bien d'avoir du bon café et du chocolat. J'ai trouvé que l'initiative était plutôt belle. Donc là, j'ai dit oui. Après, c'est aussi le kiff du dessin. Je me dis, tiens, est-ce que je peux faire un dessin qui est... Est-ce que c'est un sens qu'on me demande à moi, ou est-ce que ce serait pas mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse? Et là, généralement, je renvoie vite la patate chaude à un copain. Mais voilà, il y en a eu pas mal. Puis après, il y a toutes sortes d'initiatives. Évidemment, tout le monde, comme tout le monde était désœuvré, tout le monde s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on faisait une campagne avec ça, on va demander à Zeb de faire un dessin. Donc, beaucoup de gens ont eu cette bonne idée pour s'occuper de m'occuper, mais je n'ai pas pu répondre à tout, évidemment.
Et oui, Eva, Titeuf n'a pas qu'un zizi, il a aussi un cœur. Zeb, reste avec nous.
Europe 1.
À suivre, il est le premier consultant innovation à réussir la prouesse d'érotiser les nouvelles technologies. Il est tellement chaud que dans sa bouche, même l'installation d'une multiprise devient torride.
Eh bien, il suffit de tortiller le petit... Vous pincez le on glisse son doigt tout du...
Oui. Aujourd'hui, en plus, son sujet particulièrement caliente. Et si vous deveniez un roi des sextos, des sexologues ont créé un logiciel qui va vous filer un sérieux coup de main côté créativité. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Est-ce lui, de par son magnétisme naturel, qui installe dans ce studio une ambiance malsaine de club échangiste? Ou bien est-ce simplement Eva, qui lorsqu'elle lui parle, ne peut s'empêcher d'avoir des idées qui lui viennent? Toujours est-il qu'en présence d'Anissé, il faut faire attention à chaque phrase qu'on prononce.
Est-ce que t'as ta petite bonnette, Anissé?
Ça me fait bizarre comme phrase, je suis désolée.
Ça fait un peu préservatif, ouais.
Anissé Mbida, vous avez votre petite
bonnette. C'est moche que vous venez
bonnette.
De faire. C'est moche parce
Qu'est-ce
que
moche
là, vraiment, pour le coup, vous avez fait un gros montage. Et,
c'est bizarre parce que c'est vraiment nouveau que je fasse des montages.
C'est dégueulasse.
Oui, Anissé, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, mais j'ai vu ce qu'on va s'enfoncer. Va.
C'est encore,
tu peux rien faire.
C'est-à-dire, c'est pire. Non, il vaut mieux se taire derrière. Anissé, vous êtes notre expert innovation. Et aujourd'hui, derrière une splendide bonnette, vous allez nous parler d'une innovation qui va aider les timides.
Oui, c'est un robot conversationnel avec lequel on échange des petits SMS cochons, vous savez, comme à l'époque. Parce que Mathieu Noël a beau me faire passer pour un homme à femme, moi je suis assez vieux jeu, hein, je suis assez nostalgique de cette époque.
l'époque, vous savez, où toute la nuit on s'envoyait des SMS, on n'avait que 128 caractères, donc il fallait choisir ses mots, on jouait la séduction, on se titillait par message interposé. Hein, aujourd'hui, c'est quand même plus aussi subtil, hein, quand au bout de deux messages sur Tinder, on vous demande tout de suite, tiens, est-ce que tu peux envoyer une photo à poil où on te propose de coucher. Donc non, on a créé des robots justement pour retrouver cet art, hein, de l'excitation épistolaire numérique.
Alors comment ça marche exactement ?
Alors c'est une intelligence artificielle, vous l'avez dit, hein, qui a été développée par des sexologues et des écrivains de romans érotiques, et elle va commencer par vous demander si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si on cherche plutôt un petit flirt gentillet ou quelque chose de beaucoup plus torride, et elle va commencer comme beaucoup de conversations, hein, dire, bah, par exemple... Salut, c'est Sophie, la prof de yoga. Merci d'avoir répondu à mon message.
Ah bon ? Il faut pas beaucoup, hein.
J'ai pas mal pensé à toi depuis le dernier cours. Tu sais, parfois mon imagination s'emballe. Tu veux savoir de quoi j'ai rêvé hier soir ? Et ça commence comme ça, et donc on répond. Et de fil en aiguille, la conversation prend, et à un moment, elle va vous demander et si je te proposais un cours privé, tu voudrais que je te fasse quoi ? Et donc on doit répondre, comme ça on doit essayer de séduire, de répondre à la séduction. Décris-moi ta scène de film porno préférée, et hop, on commence à décrire. Et ça peut aller évidemment très très loin. Ben, j'ai eu ce message, moi, hier j'ai testé un butt plug, est-ce que tu veux que je te raconte ? Et donc c'est hyper torride, ça peut aller très très loin dans... Mais justement,
on échange. Non mais pardon, attendez, j'ai un truc que j'ai pas compris. Donc, vous parlez avec l'intelligence artificielle.
Oui, oui, c'est comme des SMS qu'on envoie et puis l'intelligence artificielle vous répond. On parle, on répond. Elle raconte toute seule son expérience sexuelle et soit vous intervenez, soit elle vous fait parler et vous répondez.
Et ça marche bien, franchement.
Alors, c'est pas tout à fait parfait, un peu comme toutes ces intelligences artificielles. Hein, vous savez, de temps en temps, ils répondent à côté, ou ils disent des trucs vagues, complètement insipides. C'est torride ce que tu es en train de dire, petit coquin, des choses comme ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'intention qui est derrière. Parce qu'on apprend plein de trucs, finalement, avec ce logiciel. Bon, on apprend des astuces pour mieux connaître son interlocuteur, par exemple. On apprend à interroger la personne pour savoir si elle est dans le mood, si elle a vraiment envie qu'on aille plus loin dans la conversation, hein, donc pas à s'emballer tout seul. Souvent, il y a des gens qui s'emballent tout seuls. Hein, sur Tinder, au bout de 3 secondes, il y a certains qui envoient la photo de leur sexe. Et beaucoup de femmes se plaignent de ça, notamment des hommes, malheureusement, hein, qui s'emballent.
Mais vous pensez qu'une intelligence artificielle va rendre les gens moins cons là-dessus ?
C'est pas qu'elle va rendre moins cons, mais c'est
on s'entraîne,
on est inspiré par sa façon de parler, et on se dit, ah bah ouais, ça marche pas mal. Ah bah oui, elle me tire les vers du nez. Ah bah oui, c'est subtil. Ah bah oui, c'est quand même super excitant ce qu'elle vient de dire. Et on finit par reproduire les mêmes choses dans une conversation.
On apprend
des choses.
Une question importante se pose. C'est si vous vous faites choper par votre femme.
Alors, c'est ça qui est terrible.
Parce que là, vous êtes dans un truc qui est virtuel, qui est faux.
On a un faux numéro avec des tas de SMS en dessous, hyper torride.
Ah oui, donc vous voulez dire, alors ça c'est pour une chronique sur Europe 1, en fait chérie, je suis en train de...
Non mais on montre que, bah, évidemment, c'est une conversation, parce qu'on peut continuer la conversation un peu plus tard. Et ce qui est bien, c'est que quand on recommence la conversation, eh bien comme justement ce qu'on fait comme erreur souvent nous autres, c'est qu'on se dit, bah tiens, ça a été torride la dernière fois, je recommence tout de suite torride. Et bien là, ça montre qu'il faut prendre son temps.
Voilà.
Qu'il ne faut pas tout de suite s'emballer.
Axel ?
Je préférais la chronique de lundi sur la trottinette électronique.
Oh mais qu'il est chaste, qu'il est prude,
non,
celui-là.
Il sait tout, il connaît tout ça.
Bon, je sais que je vais perdre avec cette chronique.
Il n'a pas besoin de conseils. Alors, on cite le nom de ces applis.
Il y en a plusieurs, hein. Slotbot, Botter, Personality Forge. Il y a des noms un peu équivoques. Hein.
Eva, de nouveaux horizons s'ouvrent à vous ?
Plus tard.
Toute rouge, comme une tomate du sud.
Non, en fait, j'aimerais bien être l'intelligence artificielle, c'est-à-dire... Non, mais...
Ça, c'était Minitel. C'était Minitel à l'époque.
Répondre.
Merci Anissé, Lida. Axel, un commentaire totalement hors de propos et gratuit à l'issue de cette chronique.
On sent qu'il pratique la MILF, Anissé.
Merci.
Europe 1.
Ne plus pouvoir accueillir pour le moment nos invités en studio est une souffrance, les amis. Les prendre au téléphone, un soulagement. Frustration qu'on expliquait hier à Maxime Chattam, le célèbre auteur de thrillers.
Ah, mais on regrette que tu ne sois pas en studio avec nous.
Ah, on n'est plus qu'avec Eva en studio.
Je ne veux pas savoir.
Non, on est habillés. Hein.
Ah, quel intérêt alors.
Maxime Chattam, à mon avis, il connaît le guide du zizi sexuel. Ça tombe bien, Zep est notre invité cet après-midi.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Lustrer ces zygomatiques tout en galvanisant ces neurones. Vous écoutez l'équipée sauvage et en ligne avec nous aujourd'hui un pilier du 9e art, créateur notamment de Titeuf. Son dernier ouvrage réservé aux adultes, Happy Sex 2, avait mis une sacrée ambiance dans le studio la dernière fois, même s'il avait filé le bourdon à un de nos journalistes.
Non mais j'ai souvent des plaintes d'enfants en fait en dédicace qui me disent pourquoi nous on peut pas avoir Happy Sex. Ce que je leur dis c'est que c'est plus drôle à partir du moment où on a une vie sexuelle.
Ah, sauf si elle est ratée.
Oui.
une petite pensée pour Emmanuel Dutheil, ça avait été dur pour lui ce jour-là. Merci Zeb d'être en ligne avec nous cet après-midi. Un mot d'un géant de la bande dessinée qui nous a quitté le 24 mars dernier, c'est Uderzo. J'ai vu sur votre compte Instagram un dessin qu'il vous avait adressé où on voit Astérix dire à Obélix en voyant passer Titeuf, c'est tout à fait moi quand j'étais gamin.
Ah, c'est génial.
Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous recevez ce dessin ?
Ah bah, une immense émotion. Moi, évidemment, j'ai, comme je dirais tous les dessinateurs, mais aussi comme des millions de lecteurs, j'ai grandi en lisant Astérix et en étant fan du dessin d'Uderzo. Donc de recevoir quelque chose comme ça, c'était magnifique.
Et vous avez dit cette phrase que vous avez mise sur Instagram, « Quand le succès te tombe dessus, il faut être reconnaissant et fermer sa gueule ».
Oui, c'est quelque chose que ouais. Uderzo m'avait dit, et je trouvais que c'était une belle leçon, quoi, parce que qui mieux que lui, enfin Goscinny et lui, ça leur est tombé dessus à un moment où en plus le métier de bande dessinée était considéré un peu comme plus un hobby d'attardé mental que vrai métier, hein, les années 60, enfin, c'était vraiment le truc récurrent. On leur disait oui, mais qu'est-ce que vous faites comme vrai métier? C'était pas très respectable de faire des petits dessins pour enfants ou pour adolescents. Et par contre, lui, il s'est trouvé avec Goscinny à un moment embarqué dans un succès qui était inimaginable. Donc, comment on réagit face à ça? On peut choper la grosse tête, devenir complètement fou avec ça, ce qui n'a pas du tout été son cas. C'est quelqu'un qui restait très humble toute sa vie. Et je trouvais que c'était une belle phrase. Voilà, il disait ça, voilà, ça vous tombe dessus pour finir. Il avait aussi des collègues qu'il admirait beaucoup, qui n'ont pas eu de succès, donc il voyait bien aussi cette part de hasard qu'il y a là-dedans. À un moment, le public choisit un artiste plutôt qu'un autre, et quand c'est vous, eh ben, la meilleure chose à faire, ouais, c'est d'être reconnaissant, c'est de dire merci et de ne pas la ramener sur pourquoi on est plus connu que les autres.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que les grands auteurs de bande dessinée, comme Uderzo, comme vous, vous avez une propension justement à savoir garder la tête froide par rapport à, je sais pas, des acteurs de cinéma qui prennent la grosse tête. Enfin, vous avez vendu, je crois, 23 millions d'albums. Enfin, c'est énorme. Vous êtes une star de l'édition et on a l'impression qu'il y a chez vous une grande simplicité, une grande humilité encore.
Il y a une grande différence avec les comédiens, c'est que les gens connaissent nos personnages, mais ils ne nous connaissent pas, ou ils ne nous reconnaissent pas. Donc si on rêvait d'être harcelé dans la rue et qu'on nous demande des autographes, c'est assez décevant. Généralement, si on a choisi ce métier-là, c'est aussi parce qu'on aime bien ce côté-là. Moi, j'adore ce côté, quand un album sort, je peux me promener en librairie et voir les gens qui feuillettent mon livre et voir leur réaction, ils ne savent pas que c'est moi. Il y a même une fois un libraire qui m'a parlé de moi en me disant « Ah, mais je le connais bien
!» C'est génial.
Et c'est hyper cool parce que tout à coup, c'est une situation surréaliste, quoi. Et on a ce privilège-là parce que on se cache derrière des personnages.
Zeb, on parlait d'Astérix tout à l'heure. Il y a quand même une grande différence avec votre personnage Titeuf. C'est que Titeuf, il parle de sexe, ce que faisait absolument pas.
Oui, il y avait peu de sexe dans Astérix.
Uderzo, il y en avait absolument pas. Comment vous en êtes venu à créer ce personnage qui parle de sexe, ce petit gamin qui parle de sexe?
C'était très transgressif à l'époque.
Ouais. J'avais envie de quelque chose de transgressif parce que j'avais l'impression que cet âge-là se construit par la transgression. Et puis, je trouvais que la bande dessinée, que j'adore, hein, moi je suis un grand lecteur de bande dessinée, mais quand j'ai commencé à en faire, je trouvais qu'elle parlait d'un monde qui n'existait plus vraiment. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque où Astérix a été lancé, où toutes ces grandes bandes dessinées de l'âge d'or de la BD des années 60 ont été lancées, il y avait une censure très très forte. On ne pouvait pas parler de sexe. On n'avait même parfois pas le droit d'avoir des personnages féminins dans les bandes dessinées. C'est de la préhistoire. Tandis que quand moi j'ai commencé à en faire, on n'était pas du tout dans cette réalité-là, mais on continuait à pratiquer aussi cette forme de bande dessinée très classique, parce que voilà, c'était les grandes valeurs de la BD, un peu. On se disait, les gens ont envie de voir ça, ils ont envie d'avoir des bandes dessinées comme Boule et Bill, avec un papa qui travaille, qui rentre le soir à la maison, la maman qui appelle le dîner, le livreur de lait, les réverbères au gaz. Ça faisait partie d'une imagerie un peu comme Robert Doisneau, que les gens aimaient bien. Mais moi, je disais, j'aime ce genre de dessin-là, j'aime cette bande dessinée-là, j'aime cette manière de raconter des histoires, mais il me manque les sujets de mon quotidien. On était au début des années 90, il y avait une forte crise en Europe avec du chômage, donc il y avait beaucoup de gens qui se trouvaient au chômage, il y avait le sida, et sans vouloir faire une bande dessinée alarmiste, j'avais l'impression que quand on est enfant, on absorbe tout ça, et on a besoin d'en parler, on a besoin d'en rire aussi, et d'inventer toutes sortes de théories.
Et quand on est enfant, on a besoin, surtout d'un guide, un guide très important, le guide du zizi sexuel, qui a bientôt 20 ans. Hein, vous imaginez à quel point il a été important dans ma construction personnelle. Et là, il va ressortir en octobre prochain une nouvelle version. Qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle version? Parce que le sexe a pas mal changé.
Alors, pas sur tous les plans, mais il y a des choses qui ont changé, ouais, bien sûr. Il y a 20 ans, par exemple, on parlait pas du... Enfin, Internet était encore pratiquement inexistant en France. Aujourd'hui, on sait que les enfants, la première confrontation à la sexualité, c'est par Internet, c'est par la pornographie sur Internet. Donc, c'est d'autant plus urgent d'en parler pour décrypter tout ça. Dans le guide, dans la première édition, effectivement, on abordait l'idée de la pornographie, mais c'était des enfants qui tombaient sur un magazine, il y avait cette idée très particulière, clandestine, un peu violente. Aujourd'hui, c'est complètement mainstream. Un enfant de 10 ans qui n'a pas été confronté à de la pornographie, il faut le chercher un moment, je pense. Ouais. Donc, ils ont tous vu ces images-là. Donc, c'est important de les commenter, de parler aussi des réseaux sociaux, de la manière de se rencontrer par les réseaux sociaux, de se draguer sur les réseaux sociaux. Il y a des enfants qui... Les enfants, souvent, imitent les grands. Donc, vous imaginez bien qu'ils font des choses qui ne mesurent pas exactement l'impact. Hein. Les sextos, c'est quelque chose qui se fait aussi chez les enfants.
Oh, mon Dieu.
Mais sans vraiment comprendre pourquoi ils le font, parce que l'excitation, elle n'est pas encore... chez les enfants prépubères, ça ne se joue pas là-dessus. C'est plus pour imiter les grand, pour faire quelque chose de transgressif, justement. Donc ça, c'est important. Dans la première édition, on parlait d'homosexualité, mais assez peu. On en parlait, il y avait une ou deux questions à ce propos, mais évidemment, on ne parlait pas de transgenre, de cisgenre, de tous ces thèmes qui sont aujourd'hui très présents. Donc, quand on est enfant, on entend tout ça. Et on a besoin qu'on nous décrypte. Donc, je pense que c'était vraiment important de faire une mise à jour et d'avoir un ajout avec tous ces nouveaux sujets.
Le guide du zizi sexuel 2.0, c'est pour octobre. Oui. Et merci beaucoup, Zeb, d'avoir été avec nous cet après-midi. Juste une toute dernière question. Est-ce qu'il y a un nouveau Titeuf dans les tuyaux?
Il y a un nouveau Titeuf, je travaille dessus. Il sortira l'année prochaine.
Ah, magnifique. Eh bien, nous l'attendons avec impatience. On vous attend en studio la prochaine fois, quand vous pourrez sortir de Suisse.
Ouais. J'espère qu'on enlèvera les barbelés.
Merci beaucoup, Zep.
Europe 1.
C'est indéniablement le tube du quinquennat.
À gauche, à droite.
Et en même temps, une formule qui colle parfaitement à la nouvelle proposition de Gérald Darmanin qui promeut l'actionnariat salarié, une mesure à la fois de droite et de gauche, comme va vous l'expliquer Axel de Tarlé.
L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Il a dansé sur Janet Jackson jusqu'au bout de la night dans sa jeunesse.
Oh bah, masqué, elle ne peut pas.
Oui, bon, enfin, mais c'était loin en même temps, sa jeunesse. Axel de Tarlé, désormais l'expert écho d'Europe 1. Chacune de ses chroniques est d'ailleurs un moment sacré où, personnellement, je m'efface toujours devant la science économique d'Axel. Ma hantise serait vraiment que cette émission vire au café du commerce.
L'ONU, chaque année, établit le classement du développement humain.
Et donc... La liste, on va savoir.
Et la France, effectivement, on n'est pas très bien classé.
Pop.
Et non.
Non, le café du commerce, pas de ça chez moi. Axel, aujourd'hui, je serai muet comme une carpe durant votre exposé sur cette idée portée par Gérald Darmanin, développer l'actionnariat salarié. J'ai réussi à le dire et je me suis beaucoup entraîné.
Exactement, parce qu'il y a au sortir de cette épidémie du Covid, il y a une demande très forte de revalorisation salariale qui a même été encouragée, on a l'impression, par le gouvernement. Chacun trouve normal et attend d'avoir son salaire revalorisé. Bon, le grand problème, c'est que vous imaginez, vous allez voir votre patron, dites donc, faudrait songer à m'augmenter. Le patron, il a déjà plus un rond. Et donc, ça risque de plomber nos entreprises. Et donc, comment se sortir de cette situation? Eh bien, c'est l'idée promue par Gérald Darmanin le week-end dernier dans le journal du dimanche, promouvoir l'actionnariat salarié. Il le dit, il faut que les salariés deviennent des actionnaires. Donc, vous frappez à la porte de votre patron et vous dites, au lieu de t'augmenter, je vais te donner des actions.
C'est un modèle qui est répandu dans beaucoup de pays, ça?
Alors, voilà une bonne colle.
En France, ça existe. Je te fais des relances comme ça.
Des relances que je me dis.
Des relances pièges.
La prochaine fois, je les écrirai, les relances.
Oui, ça sera mieux. Mais je me demande si aux États-Unis,
ça existe. En France, ça existe beaucoup. Vous avez par exemple la Société Générale, où les salariés de la Société Générale ont 9,5%. Et du coup, quel est l'avantage de tout ça? Eh bien, c'est que les salariés, d'abord, ils ont une part des bénéfices. Donc, si vous voulez, quand on dit tout part aux dividendes, c'est faux. Puisque comme les salariés ont 10%, des actions, ils ont 10% des dividendes. Donc les salariés sont associés à la bonne marche, sont intéressés à la bonne marche, à la bonne rentabilité de l'entreprise. Et puis deuxième chose, comme ils sont propriétaires à hauteur de 10%, ils sont même associés à l'avenir, à la stratégie de l'entreprise. À un moment où on dit qu'il faut absolument mener une stratégie écologiste, verte, et bien les salariés peuvent avoir leur mot à dire. Et pour revenir sur cet exemple de la Société Générale, pourquoi je voulais citer Parce qu'en 1999, je ne sais pas si vous vous souvenez, la BNP lance une OPA hostile sur la Société Générale. Et vous savez ce qui a sauvé la Société Générale ? Ce sont les salariés. Les salariés qui ont voté contre le rachat par la BNP. Ce vote contre a été décisif. Et c'est comme ça que la Société Générale est restée indépendante. Donc vous voyez, avec ce système, d'abord, on associe les salariés à la marge de l'entreprise. Et en plus, on offre une possibilité de rémunération sans plomber aucunement la rentabilité de l'entreprise.
Mais ça semble absolument parfait.
Oui, est-ce que je peux poser une colle, une deuxième colle.
Ça fait deux colles, c'est beaucoup quand même pour
Est-ce que toutes les entreprises sont concernées ou c'est que les grands groupes ?
Ah, très bon. Ça, c'est une relance intelligente. Merci.
C'est
de la relance. Exact. Eh ben non, vous mettez le doigt sur les limites de cet actionnariat salarié. C'est que dans les petites boîtes, d'abord, ça revient un peu à exproprier quand même. On ne va pas exproprier le petit patron qui va pas, quand le patron il a 100% de sa boîte, c'est compliqué pour lui de la découper. Et puis deuxième chose, en fond, il y a des salariés qui vont travailler pour les entreprises très performantes. Si vous travaillez sur LVMH pour Google, c'est pas la même chose que si vous êtes salarié à Halal, aux vêtements ou à Camaïeu ou Conforama. Mmh. Donc vous voyez, et en plus, votre rémunération ne dépend même pas de votre travail, mais de la boîte dans laquelle vous travaillez, qui peut avoir des difficultés parce qu'elle est sur un secteur compliqué. Et en plus, je termine par là, si votre entreprise fait faillite, non seulement vous perdez votre salaire, mais en plus, vos actions
ne valent plus rien.
Donc vous perdez votre salaire et vos économies. C'était ce qu'il y avait avec Enron. Les salariés étaient très intéressés à la bonne marge de l'entreprise. Donc à un moment, ils avaient du salaire et des actions qui valaient je sais pas combien.
C'était un peu les rois du pétrole à l'époque.
Et à la fin, ils avaient tout perdu. Donc c'est pour ça que ça n'est pas la solution, mais une solution pour cette sortie de crise. Très en même temps. Et j'allais dire, ça plaît à droite et à gauche. Ça plaît à droite parce qu'on associe les salariés à la bonne marge financière de l'entreprise, et ça plaît à gauche parce qu'au fond, c'est cette grande idée marxiste qui est que le salarié s'approprie, que le peuple s'approprie l'outil de production.
Quand Marx tend la main à Adam Smith.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Je voulais un symbole un peu plus glamour que Adam Smith, mais pourquoi pas. Merci Axel de Tarlé. En parlant d'actionnariat salarié, un dernier mot peut-être pour vous placer en vue de la saison prochaine.
Petit coup de chapeau à M. Bolloré.
En toute discrétion, je te dis que là.
Europe 1.
Eva, aujourd'hui j'ai envie de vous faire plaisir. Non, j'ai envie de vous faire plaisir. Vous me dites. Normalement, la séquence suivante, c'est un best-of des meilleurs moments du quiz qui vous oppose à l'invité. Mais si ça vous ennuie, franchement, si ça vous ennuie, à la place, on peut faire autre chose. Anissé peut nous chanter une petite chanson. Oui, alors. Oui. Non, alors, on va peut-être s'écouter le quiz quand même. Hein. On va faire un sondage auprès de nos auditeurs, on verra.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Notre émission est entrée hier dans une nouvelle phase. Eva Rock déclarant à l'antenne au sujet de la séquence du quiz de Culture G.
Je trouve ça pourri, mais allez-y quand même.
Des mots terribles qui m'ont inquiété à juste titre.
C'est une révolte.
Non, c'est rien. C'est une révolution.
Eh bien, Eva, en attendant le grand soir, je vous propose qu'on se réécoute quand même un petit best-of bien gratiné du quiz de Culture G qui vous opposait jadis à l'invité. Nous laisserons le soin à nos éditeurs de déterminer si c'est pourri, comme vous dites, ou simplement...
pourri.
Gourmand. Pierre Arditi, pour évoquer Compromis, cette pièce de théâtre qui se déroule sur fond de tractation immobilière, nous avons conçu un quiz musical immobilier. Principe simple, je vous fais écouter des chansons sur le thème des maisons, mais une personne va sonner. À vous de trouver la parole qui a disparu derrière la sonnette. Un mot trouvé, c'est vicieux, hein ? Un mot trouvé, un point.
Pas vicieux, c'est impraticable.
Vous allez voir. Pierre Arditi, on commence avec La Maison Bleue de Maxime Le Forestier.
Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester.
Peuplée de fous, elle sera la dernière à rester.
Debout.
Bravo, Pierre Arditi.
Elle sera dernière à rester debout.
J'adore cette chanson. Non, l'Alzheimer est en pleine forme. C'est la catastrophe pour moi, un truc comme ça. Hein.
Bah, vous avez quand même marqué un point. Bon. Eva Rock, je vous invite dans la maison de Claude François.
Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton...
Ah tiens, ils berceront ton quoi ? On écoute la...
Ton
Eva ?
Cœur ?
Ton cœur ? On écoute
oui,
la réponse en
ils
musique.
Ils berceront ton cœur.
Voilà.
Moi, je suis forcément battu sur un truc comme ça, parce que c'est un vrai problème. C'est le truc que j'ai entendu tout au long de mon adolescence.
Mais comment c'est possible que vous avez une mémoire
incroyable ? Parce que, par exemple, Compromis, on l'a arrêté pendant 4 mois. Donc, je n'ai pas ouvert le thème. Je me suis dit, pas de problème. 8 jours avant, je commence à regarder. Je ne savais plus rien. Donc,
vous avez une mémoire à court terme extrêmement efficace.
Non, c'est dans le disque dur. C'est-à-dire que j'ai mis 24 heures pour reprendre le cirque. Donc là, vous me faites écouter des trucs que je n'ai pas entendus depuis 25 ans. Et par conséquent, évidemment, je n'ai aucune chance de m'en sortir.
Bah, vous avez un point déjà, Pierre.
Attention, c'est pour l'instant, c'est bien seul. À égalité. Pierre Arditi, on part dans la maison hantée d'Eddie Mitchell.
Quand minuit sonne dans la maison hantée, un vieux piano se met à jouer.
Oui, ça c'est facile.
De la main. Vous dites, ah, il y a peut-être un piège, écoutons.
Fond d'étrange signe de la main.
Ah non, sacré Eddie. Eva Rock, c'était pas la plus dure hein, pour Pierre. Là. Ouais. Je sens qu'il y a une coalition contre Eva
Rock. Oui,
Eva Rock, un moment romantique et humide avec Herbert Léonard, Mon cœur et ma maison.
Je t'ouvrirai mon cœur et ma maison. Tout ce que j'ai.
J'ai même pas écouté en fait. Je t'ouvrirai ma maison et mon cœur.
Un peu de respect pour Herbert.
Non mais pardon, oui. Je t'ouvrirai mon cœur et ma maison là, et puis quoi après?
Tout
je
ce sais que plus. J'ai, nous le
partagerons.
Oui.
Ah le point, elle vient de vous voler un point, écoutons la réponse.
Tout ce que j'ai, nous le partagerons.
Je partage mon point avec
le point est à Pierre Arditi. Dernière question qui vous départagera. Eva, Pierre Arditi, on ne va pas dans une maison, mais dans le HLM de Renault.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est...
Je sais plus. Je sais.
Moi, je sais pas.
Mais vous jouez pas non plus, vous.
Vous jouez pas.
Je joue pas. Jean-Philippe Ballas.
Bronzé.
Surtout si c'est bronzé.
Ah, bien joué.
Mais vous ne jouez pas.
Bravo.
Qui remporte le quiz? C'est évidemment Pierre Arditi, notre invité. C'est toujours l'invité qui gagne.
Europe 1.
C'est officiel. Jusque-là, vous aviez encore une infime lueur d'espoir quant au respect hypothétique que vous portez vos enfants. Aujourd'hui, c'est clair, ils vous prennent pour un vieux con. Le pire étant lorsque vous leur proposez votre aide pour les devoirs.
C'est ce que t'as à faire pour la vie? Tu veux que je t'aide?
Non, après mes notes, c'est pire.
Oh, c'est du français. En français, je peux pas.
Laisse tomber, c'est pas le même français qu'avant.
La claque est rude. Eh bien, laissez-les se débrouiller, ces petits cons. Si... Moi qui aime tant les enfants, ça me fait du mal de dire ça.
Non, vous les avez appelés comment hier?
Et j'y reviendrai tout à l'heure.
Pardon.
Le reste du temps, quand ils vous empêchent de bosser parce qu'ils s'ennuient tout le temps, offrez-vous une heure de répit en les mettant devant un écran comme au bon vieux temps d'avant Françoise Dolto. Les conseils écran jeunesse d'Eva arrivent juste après Antoine Ellie. Paradis sur Europe.
Allez, allez, viens, on danse comme un jeu d'antan. Y'a plus la joie d'enfant, c'est pas grave. Laisse-toi balader dans le temps, c'est le panard.
Paradis, c'était Antoine Ellie sur Europe, que j'avais fait découvrir à Eva, pas vrai Eva?
Oui, c'est vrai.
Oui,
et
c'est
quelle
vrai.
Belle découverte.
Quelle belle découverte.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Même quand vous faites un compliment, ça sonne faux.
Non, mais surtout, ce qui est dégueulasse, c'est que demain, on va avoir les off de avant la phrase que je viens de prononcer.
Évidemment, et c'est
ça. Et
devoir
savoir que j'ai menti. C'est horrible.
Eva avait apprécier l'expression que j'utilise personnellement depuis le confinement pour évoquer ce qu'on appelait jadis les enfants. Moi, je ne les appelle plus les enfants, mais les cornes de brume sur pattes. Ils sont partout dans votre appartement, dans leur chambre, dans le salon, planqués sous un rideau pour filer la trouille à mamie Claudine. Si ça continue à la fin de la trêve hivernale, qui a été exceptionnellement prolongée, on les expulse.
Dans des chambres de bonne, avec toilettes et point d'eau sur le palier.
Exactement, point d'eau sur le palier, ça leur fera les pieds aux cornes de brume. En attendant, Eva, on peut déjà limiter les dégâts en les anesthésiant à coups d'écran.
Exactement, allez, deux contenus de plus pour vos enfants. Alors, le premier m'a été conseillé par des enfants, d'ailleurs, de 8 ans, que je salue. Les élèves de l'école de La Rochefoucauld en Charente, je vous en avais déjà parlé, ils sont fans d'un court-métrage.
Vous êtes resté en contact avec eux?
Ben oui, ils sont fans d'un court-métrage, figurez-vous, d'animation, que vous retrouverez facilement sur YouTube et qui est intitulé Hors piste. Alors, il faut imaginer, il y a un skieur qui est blessé au sommet d'une montagne et il y a deux sauveteurs qui arrivent en hélicoptère. Très musique, années 80.
J'adore cette musique. On dirait les musiques d'Extrême Limite.
Oui, c'est un peu ça. Exactement.
Toujours plus loin, plus haut, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite.
Eh bien, vous avez bien raison, parce que les deux types, ils se la jouent un peu, les deux sauveteurs. Ils vont atterrir, ils mettent la victime dans le brancard. Et puis là, il y a un faux mouvement qui fait que le sauvetage va se transformer en véritable catastrophe. Parce que l'hélicoptère va glisser, il va exploser plusieurs mètres en bas. Et voilà nos trois hommes dans une situation bien embarrassante. Et alors, je vous laisse découvrir la suite.
C'est bien votre sens de l'euphémisme.
Mais oui.
L'hélicoptère explose. C'est vrai que sont dans une situation bien embarrassante. intéressante.
Non, mais parce qu'ils sont, ils sont quand même foufous. Et vous allez voir, c'est vraiment, ils sont capables de tout. Je vous laisse découvrir la suite. Si vous avez vu The Party avec Peter Sellers, vous allez retrouver une espèce de loufoquerie similaire dans ce court-métrage. C'est un court-métrage génial qui est réalisé par les élèves de l'École des Nouvelles Images, alors qui regorge de références. Alors, une notamment au Bronzé Fond du Ski, une autre à Haïti. C'est vraiment une pépite d'animation que je conseille aux grands et aux petits. Et je dois dire que j'étais même assez surprise que ce soit des enfants qui me recommandent ce film. Faites-vous plaisir, ça dure 7 minutes hors piste, c'est sur YouTube.
Mais ça dure 7 minutes, Eva. 7 donc minutes. C'est très bien, mais 7 minutes, ça ne va pas nous éloigner longtemps des enfants. Il faut les calmer plus longtemps. Il faut accéder, il faut leur donner le coup de grâce.
Non, j'ai trouvé plus longtemps une série de dessins animés.
C'est bon, ça.
Très chouette dessin animé qui est intitulé.
10 fois 52 minutes.
Ouais, quasiment. Non, pas autant. Parce que vous savez que maintenant, les producteurs font attention, les éditeurs font attention en programme jeunesse. Généralement, ce sont des passés qui ne dépassent pas 10 minutes pour pas que vos enfants, justement, restent trop longtemps. Et ce dessin animé s'intitule Coach-moi si tu peux. Alors, je reconnais qu'à la lecture du pitch, je me suis dit que normalement, on attend des réalisateurs des contenus jeunesse une abstinence totale aux drogues et autres substances illicites.
Ah oui.
Et là, j'ai un petit doute parce que je vais vous donc lire le résumé de l'histoire.
Ah oui, mettez bien le ton.
Attention. C'est le quotidien mouvementé du jeune Daniel Sissou et de son meilleur ami qui n'est autre que Errico Platana, champion du monde de football, métamorphosé en ballon de foot par un sorcier zinzin. Errico arrivera-t-il à briser la malédiction en aidant Daniel à devenir une star du foot ? Extrait.
C'est un cauchemar. Je peux pas vivre ici.
Bah, ce sera plus simple vu que vous devez m'entraîner. En plus, j'ai fait de la place pour vos affaires et je vous ai fait un petit lit dans mon tiroir.
Efface-moi ce sourire. Allô, Tonya ? Il m'arrive un truc horrible. Trouve-moi un magicien le plus vite possible. Hein, quoi ? Ouais, un marabout. Enfin, je sais pas, moi. Un exorciste, un chaman, quoi. Allô ? Allô ? Oh, elle m'a raccroché au nez.
Donc, un enfant qui parle à un ballon de foot qui est en l'occurrence l'incarnation d'un joueur de football.
C'est surréaliste,
c'est surréaliste, mais je crois que c'est ce brin surréaliste qui m'a poussé en fait à regarder quelques épisodes de ce dessin animé et je dois dire que c'est plutôt très réussi. Alors évidemment, il y a question de foot, mais si vos enfants n'aiment pas le ballon rond, c'est pas grave. Il est quand même question de transmission, de passion, d'amitié, de différence, de solidarité. Il y a un graphisme qui est assez moderne mais que je trouve plutôt judicieux parce que ça change un peu de tout ce qu'on a déjà vu. Ça s'appelle Coach-moi si tu peux et c'est visible sur France.tv. Je trouve ça assez réussi et assez réjouissant pour les enfants. Voilà, ça leur fait
que
ça va leur faire
réussi,
travailler.
Je dirais que c'est un plus, mais le tout, c'est que les enfants soient calmés. Et
voilà,
ça, c'est bien
exactement.
Joué, Eva. Merci.
Europe 1.
Une première page se tourne dans l'équipe sauvage, première heure au cours de laquelle vous n'aurez pas perdu votre temps, puisqu'Anissé Mbida, notre expert high-tech, vous aura enseigné l'art du sexting, art délicat s'il en est. Axel de Tarlet n'est évidemment pas encore au point, comme il a pu le constater tout à l'heure avec le patron d'AXA.
Vous avez reçu mon texto.
Ah oui, mais je vous ai répondu d'ailleurs.
Oui, vous m'avez écrit dès que vous arrivez, vous me demandez, et puis je viendrai vous lécher tout de suite.
Oh putain, quelle catastrophe, ça c'est mon correcteur.
Ah, c'est ce que j'ai pensé, comme on se connaît pas bien.
Mais non, on se connaît pas bien.
Je sens que pour certains, il va falloir réécouter la chronique d'Anissé en podcast.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
C'est l'heure de souffler un peu pour nos valeureux combattants de l'info. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre pour une deuxième manche de l'équipe est sauvage, la grande compétition des journalistes, où règne une discipline militaire, certes, mais compensée par une ambiance résolument débonnaire. Sous les ordres de l'adjudant Rock, qui sait toujours trouver les mots pour remonter le moral des troupes.
Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé ?
Oui, Eva est un peu brute de décoffrage.
J'ai changé de voix,
mais
surtout.
Mais ça motive, les gars. Restez avec nous, une deuxième manche arrive juste après l'info. On parlera littérature, gastronomie, série télé et on partira à New York où les restaurants étant toujours fermés, les rats commencent à s'entre-dévorer.
Oh putain !
Comme vous dites si élégamment, Eva.
16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande confrontation journalistique qui éclabousse de bonne humeur vos après-midi. Sous le contrôle d'Eva Rock, grande prêtresse de cette compétition, deux nouveaux journalistes vont s'affronter au service de votre culture. J'ai parmi eux notre correspondant permanent à New York, Xavier Yvon, un type sain sous tout rapport.
Tous les matins, je bois un grand bol de désinfectant ménager et ça me nettoie à l'intérieur et je suis en pleine forme.
Ça marche. Bonjour Xavier.
Hello Mathieu, hello Eva, bonjour à tous.
Vous êtes en ligne avec nous de Brooklyn, ville chère à mon cœur puisque je vous l'annonce. Je l'annonce à la France entière. Je viens de remporter hier soir le titre de champion NBA avec les Brooklyn Nets sur ma PS4, 42 points de Kevin Durant, 17 rebonds, folle soirée. Pourtant, si j'en crois vos informations, Xavier, l'heure n'est pas à la rigolade à New York.
Oui, déjà parce que les Nets, on les voit plus jouer dans leur entre du Barclays Center à côté de chez moi. Même si c'était mis à gagner, alors qu'avant vous étiez nuls, c'était grâce à vous.
Bah oui, c'est grâce
non,
à
en fait, à New York, en temps de coronavirus, il y a comme chez vous des gestes barrières, hein, garder ses distances, porter un masque, se laver régulièrement les mains. Mais il y en a un autre. C'est de faire attention aux rats parce qu'ils deviennent agressifs. Et ouais, pourquoi ? Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter.
Oh my God, j'en tremble d'avance. Face à vous, Xavier, par l'entremise du combiné téléphonique, un autre type de rat, un rat de bibliothèque. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour.
Vous êtes l'expert littérature d'Europe 1 et cet après-midi, vous êtes intéressé aux adresses des personnages de romans. Une bonne idée de balade en ces temps de déconfinement.
Vous savez qui vit 7 rue de l'Homme Armé ? C'est Jean Valjean.
Ah.
Et il y a un type qui s'appelle Didier Blonde qui a répertorié toutes les adresses fictives des
ah,
héros
génial.
De romans.
C'est génial.
Et donc ça fait une balade superbe.
Bah, c'est fictif, sauf qu'elles ont probablement été inspirées.
Dans la réalité,
elles existent. Et puis surtout, l'auteur a dû passer par là, se dire.
Pas forcément.
Il ne croyait pas si bien dire.
Oui, mais souvent, ça doit être le cas.
Et bien, on va voir avec la chronique. Hein.
On va voir. Alors, balade sur les traces des grands héros de romans avec Nicolas Carreau, ou bien descente vertigineuse dans les égouts de New York sur les traces des rats cannibales avec Xavier Yvon. Quel sujet aura les faveurs de nos auditeurs ? Et va pour l'instant, c'est l'heure de vous mettre au platine, je crois, pour
mais
le mix
oui,
du jour.
Avec Sébastien Bourdonnave, on a scruté.
Ça va scratcher.
Mais oui, ça va scratcher. On a scruté les réseaux sociaux jusqu'à hier soir tard pour vous trouver des moments sympas. Alors, on a découvert l'humoriste Labajon avec une vanne qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Christelle Chollet qui parodie La Drôle de Vie, la chanson de Véronique Sanson. Vous allez voir, c'est formidable. Les Faux Plafonds, c'est une bande d'amis qui font de la musique avec des pinces à linge, un fer à repasser ou encore un pommeau de douche. Et puis, on va commencer avec Bernard Lavillier qui fait un live avec une brève de comptoir involontaire ou pas, à vous de juger.
Les poètes passent la moitié de leur vie à accorder leur lyre et l'autre moitié à jouer faux.
Il paraît que Brigitte Macron, elle a très mal vécu le confinement à l'Élysée.
Très mal. Il paraît qu'elle fait plein d'achats et tout, elle nous coûte très très cher. Elle a tellement fait dépenser d'argent à Manu que maintenant il l'appelle Dyson.
Pourquoi ?
Bah parce qu'elle coûte plus cher que ce qu'elle aspire.
Je peux pas sortir sans oublier mon gel moins FFP3. Pour le shopping, si je me démasque, je rentre pas chez Zara. Des files d'attente, des driving mess, concert en Fiat Panda. Pour le ciné, un siège sur trois, mange les pop-corn sans les doigts.
Il n'y a pas un seul instrument de musique.
Ah oui, c'est pour ça qu'on comprend rien.
Non mais...
Non mais s'il y a quelqu'un, je croyais qu'il chantait là.
Oui, il a pris de l'hélium. Il a pris un ballon d'hélium pour faire
beaucoup d'hélium. Hein, oui.
Et après, c'est
et
que faire
pas
à repasser,
que de l'hélium, me dit-on pince... d'ailleurs.
etc.
Peut-être trop de choses aussi.
Ah, ils sont forts quand même. Hein.
Et un mélange hélium et LSD quand même. Là.
Les faux plafonds, faux FO. Vous pouvez les retrouver sur Facebook notamment. Voilà, c'était le petit mix concocté avec Sébastien Bourdonnave.
Un océan les sépare et pourtant ils vont réussir à se foutre sur la gueule. Le choc Yvon Carreau est imminent.
Europe 1.
Et honneur quand même à celui qui fait l'effort de venir en studio alors que Xavier Yvon, lui, est lâchement resté à Brooklyn, prétextant des difficultés soi-disant dans les aéroports. Bon, Nicolas.
Toujours une bonne excuse.
Nicolas Carreau vous entraîne à la découverte des adresses des personnages de romans. Je ne sais pas, peut-être nous emmènera-t-il chez un des personnages d'un Amour de Swann.
Nous partons donc chez Dave, le chanteur.
Ah oui, non. Bon, attends, je vais t'expliquer un truc. Bon,
n'importe quoi.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. 16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
On a tous en mémoire le film Proposition indécente. Eh bien, c'était peu ou prou le même scénario diabolique que nous a proposé Nicolas Carreau l'autre jour, notre chroniqueur littéraire, se livrant à un odieux marchandage avec Eva Rock au moment du vote final. Les enfants, bouchez-vous les oreilles.
Je vous la donnerai si je gagne cette manche.
Scandaleux chantage auquel Dieu soit loué, quoique n'ayant pas vu d'homme depuis un moment maintenant. Eva Rock n'a pas cédé et c'est tout à votre honneur.
Non, mais Nicolas, non, mais je ne sais pas si une révolte est nécessaire.
Je pense qu'une révolution serait peut-être nécessaire dans mon cas.
Ouais.
Pour vous rattraper aujourd'hui, Nicolas, vous nous parlez des adresses des héros de romans. Ça, c'est une idée intéressante et c'est effectivement un peu plus chic que votre démarche de la dernière fois.
C'est l'idée de Didier Blonde qui publie chez l'Arbalète un livre génial qui s'appelle Carnet d'adresses. De quelques personnages fictifs de la littérature. Ça, c'est le sous-titre.
Ce sont donc les adresses des héros de romans.
Exactement. Didier Blonde a commencé à les collectionner quand il s'est aperçu, enfant, que son héros préféré, Arsène Lupin, vivait au 95 rue Charles Lafitte à Neuilly. Or, c'était juste
à côté de chez lui. Et tout à coup, ce qui n'était que de la fiction est devenu réalité grâce à cette seule adresse, fictive bien sûr, mais qui donnait un goût de vrai à toutes les aventures du gentleman cambrioleur. Et on comprend ça, ça fait tout drôle de se rendre sur les lieux où habitent ces héros. Moi, quand je suis arrivé à Paris, je suis allé me balader rue Férou, dans le 6e arrondissement, parce que je savais que c'est là que Athos, le mousquetaire, vivait. Ah. Et il se passe quelque chose, c'est vrai. On sent quelque chose. On revoit éventuellement les aventures du héros avec plus de force, plus d'authenticité, surtout quand l'écrivain a pris la peine de décrire les alentours avec un peu de précision.
Et donc, dans ce livre, on trouve toutes les adresses des personnages ?
Peut-être pas toutes, mais ça se présente effectivement comme un vrai carnet d'adresses, des adresses parisiennes pour la plupart, par ordre alphabétique. Donc, allons-y pour un petit tour sur les pas des héros de roman.
Oui.
Jean Valjean habite au 7 rue de l'Homme Armé. Rue de l'Homme Armé, ça ne me disait rien. Et effectivement, elle n'existe plus.
Oh ben non.
C'est une partie de la rue des Archives aujourd'hui.
Ah oui, dans Marais.
Au combien ?
Voilà.
Alors, c'est une portion de la rue des Archives. C'était au 7 rue de l'Homme Armé. Donc, il faut vérifier exactement. Ouais.
Parce que je suis sur Meilleurs Agents en parallèle et je peux vous dire que c'est très cher en mètre carré. Là, on est quand même à 17 000 euros mètre carré.
Ça coûte cher.
Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo. Alors, lui, bien sûr, il avait plusieurs adresses en fonction de ses différentes identités. 30 avenue des Champs-Élysées pour le côté show-off du comte. 28 rue de La Fontaine à Auteuil. Ça, c'est la maison de campagne. Vous savez, où il se passe un truc terrible que je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et rue Férou, on la retrouve, c'est quand il est l'abbé Busoni. Alors souvent, dans la foulée, on a aussi l'adresse des autres personnages principaux. Je ne vous les fais pas tous. Fantomas, lui, il a une quinzaine d'adresses. Gervaise, la compagne de Lantier dans l'Assommoir de Zola, rue de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement. Ouais. Blake et Mortimer sont là aussi quand ils passent un peu de temps à Paris. Ils sont à l'hôtel Louvois, rue Louvois, dans le 2e. Dans SOS Météore, Mortimer se rend à Jouy-en-Josas, chez le docteur Labrousse, au 38 rue du docteur Curzen, exactement. Maigret aussi, bien sûr. Il y a le 36 quai des Orfèvres, évidemment, mais aussi sa brasserie, la brasserie Dauphine. En fait, il s'agit du café-restaurant aux 3 marches rue de Harlay. Et il habite avec Louise au 132 boulevard Richard Lenoir. Ça, c'est précis. Ce qui est génial, c'est qu'à chaque personnage, il y a l'adresse, mais il y a quelques éléments qui rappellent l'histoire. Et donc, on revisite les histoires en même temps qu'on visite les lieux. Si vous passez un week-end à Paris, c'est le meilleur guide. Et puis ça permet aussi de creuser un peu. Didier Blonde, par exemple, quand il a su qu'Arsène Lupin habitait là, il a un peu creusé le truc. Il s'est rendu compte que la sœur de Leblanc, de l'auteur, vivait juste derrière cette adresse. Et c'est comme ça qu'il a décidé de mettre son héros ici.
C'est fort. Ouais. Eh bien moi, je suis un Didier Blonde avant l'heure. Enfin, je me suis arrêté à un personnage. Quand je suis arrivé à Paris pour mes études, j'étais allé voir parce que dans Aurélien d'Aragon, on peut voir exactement où c'est sur l'île Saint-Louis. Et on prend le petit pont Saint-Louis. Si vous êtes touriste, vous vous baladez en Paris, c'est un bel endroit. Et vous avez la vue sur Notre-Dame à cet endroit-là. C'est juste au bout du pont, un des premiers immeubles qui donne, dont les façades donnent sur
le Sacré-Cœur. Et vous êtes allé voir tout de suite quand c'est
arrivé à Bourbon, je crois.
C'est, voilà, exactement. Il se penche à la fenêtre. C'est un moment pour moi comme ça un petit peu. J'ai envie de partager avec vous pour vous montrer que j'ai aussi des références littéraires. Merci Nicolas Carreau.
Europe 1.
Elle est une indéfectible militante du bon goût télévisuel. La dernière fois qu'elle a regardé par devoir seulement un épisode de Joséphine Ange Gardien, elle a directement appelé Mimi Mati pour lui dire
« J'ai pété un plomb. Ouais, j'ai hurlé. »
Eva Rock est sans pitié.
J'étais enthousiaste.
Mais ça vous fait gagner un temps fou. Ces conseils télé-écran à suivre.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. L'équipe sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Elle est ma complice, ma muse et parfois, quand les premières chaleurs du printemps nous jouent des tours, un peu plus que ça. Et ce que j'aime dans ces moments-là, c'est qu'elle ne prend pas ombrage de ma maladresse.
Tu l'as pas ? Tu vois pas ?
Tu dois avoir un trou.
Alors attends, c'est plutôt à gauche, normalement. Ouais, à gauche de ton truc. Tu dois en avoir un, deux, trois. De toute façon, c'est ça qu'on a trop.
Allez, on y va.
Allez, on y va. Sinon, on mettra à la bourre.
Oublions ce fâcheux incident, moi d'habitude si habile, et parlons plutôt, Eva, de ce qui s'offre à nous sur les
mais
écrans
attendez,
ce soir.
Comment vous voulez que je ne peux pas enchaîner.
Et vous savez quoi ? J'ai des potes qui m'ont dit l'autre jour qu'ils étaient sûrs qu'on avait un truc entre nous. J'ai dit, mais des potes ?
Ah ben ouais.
J'ai dit, mais enfin, je leur dis, mais c'est de l'humour en fait.
Il y a des potes qui me connaissent pas, enfin, certains de vos potes qui me connaissent pas encore ?
Oui, il y en a qui vous connaissent pas et ils pensent qu'on a un truc.
Ah bon ?
Bien sûr.
Un truc, on l'a, mais après.
Mais un truc comme on vient d'illustrer.
Bon,
non,
je vais redevenir un peu sérieuse. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'au menu de ce mercredi, la rediffusion d'un téléfilm et une toute nouvelle série. On commence avec le téléfilm qui s'appelle Parole contre parole. C'est le titre de cette fiction de France 2 qui sera diffusée diffusée donc ce soir à 21h. Le sujet est très difficile, mais vraiment la fiction est très réussie. Ça traite des conséquences psychologiques d'un viol. Je vous raconte l'histoire. Laura est commissaire priseur. Elle va accepter un dîner avec un propriétaire d'une galerie d'art, Guillaume Miller. Il y a un jeu de séduction entre eux qui est évident, et la soirée va se prolonger d'ailleurs dans la maison de campagne de Guillaume, qui est marié par ailleurs. Et puis, le garçon, au cours de la soirée, va quand même tenir des propos très déplacés sur les femmes. Résultat, Laura, elle n'est pas très à l'aise. Lui va commencer à lui faire des avances. Elle lui dit non. Il insiste. Elle refuse. Elle dit non. Elle redit non. Et malheureusement, il la viole.
J'ai porté plainte pour viol, Guillaume.
Pour viol ?
J'ai dit non. Je t'ai dit non.
C'est ça, vas-y, porte plainte. T'as raison. Tu sais ce qui va se passer ? Il y aura une enquête. Ils vont interroger les clients du restaurant. Ils vont leur demander ce qui s'est passé. Ils leur diront, on a vu deux amoureuses regarder dans les yeux toute la soirée. Ils mettront leur nez dans ta vie, dans celle de tes copines. Ils se rendront compte que t'es une fille libre, c'est-à-dire une fille facile, qui joue la carte du viol.
Alors vous voyez, ça commence très mal, parce qu'effectivement, il y a un jeu de psychologique entre les deux. Mais sauf que cette nuit-là, la femme de Guillaume est assassinée. Alors il a un alibi, puisqu'il était avec Laura, sauf que Laura, pour se venger du viol, elle va nier avoir passé la soirée avec lui. Alors au-delà de l'intrigue, qui est très machiavélique, la fiction, elle traite parfaitement des ravages psychologiques et physiques qui sont causés par un viol. Laura est incarnée par Elsa Lugini, qui excelle dans ce rôle, face à François Vincentelli, et pour la seule prestation de la comédie, je vous recommande vraiment ce téléfilm qui est à voir sur France 2.
Et si on préfère une série plus divertissante ?
Oui, ce que je peux comprendre. Hein, c'est l'événement série de la semaine et c'est sur Netflix que ça se passe. Ça s'appelle Snowpiercer, qui est adapté de la BD française publiée en 1982. Et en français, on disait le transpersonnage. Il y avait déjà eu d'ailleurs une adaptation au cinéma par Bong Joon-ho, vous savez, le réalisateur de Parasite. Hein. Exactement. Donc là, c'est vraiment la série. Face au réchauffement climatique, il y a des scientifiques qui pensent avoir la bonne idée, refroidir l'atmosphère. Sauf que l'expérience va très très mal tourner, et voilà la planète totalement gelée, anéantissement de la population, sauf une poignée de survivants qui va résister et qui va monter à bord d'un train, 1001 wagons qui ne cessent d'ailleurs de faire le tour du monde. Un train de l'extrême avec les riches dans les wagons de tête, les pauvres à l'autre bout. On retrouve tout ce petit monde 6 ans après le début du voyage et les plus démunis n'en peuvent plus.
La seule raison pour laquelle ils nous nourrissent encore, c'est que nous sommes leurs esclaves.
Ils vont nous affamer jusqu'à la mort, ils stérilisent les femmes. Il n'y a eu aucune naissance dans les wagons de queue depuis 5 ans.
On doit se battre. Je veux être papa, les gars. Je suis le dernier Australien.
Et dans pas longtemps, ils vont nous couper les vivres, une bonne fois pour toutes.
Alors Mathieu et Nicolas, je ne sais pas si vous connaissiez la BD, si vous aviez vu le film. Cinéma.
J'ai vu la série, donc tu n'apprends rien, mais je te laisse parler
vous
pour
nos
auditeurs.
Vous avez vu la série ?
Oui, je suis en train de la regarder là.
Oui, vous avez vu les deux premiers épisodes.
Ah, il n'y en a que deux ?
Il n'y en a que deux pour l'instant.
J'ai vu les deux premiers, oui.
Voilà, les deux premiers. Alors, moi je sais que cette dystopie était très attendue par les fans de science-fiction, que je ne suis pas, je préfère le dire tout de suite. J'ai quand même regardé les deux premiers épisodes. Moi je trouve que la vie à l'intérieur du train, la gestion du confinement, depuis la nourriture jusqu'aux loisirs, la gestion de l'école, comment chaque wagon est un univers à part entière, tout ça m'a fasciné, d'autant que la réalisation est plutôt efficace. En revanche, je dois reconnaître que l'intrigue, voilà, la résolution d'un meurtre, et les personnages m'ont vraiment pas séduite. Alors, à en croire les critiques américaines qui ont pu voir l'intégralité de la saison, la dimension sociale, c'est-à-dire l'opposition riche-pauvre, elle est plus développée dans les épisodes suivants, donc je vais quand même continuer à regarder Snowpiercer sur Netflix. Pour l'instant, je trouve que c'est un bon divertissement.
Et pour l'instant, ce n'est que un bon divertissement.
Voilà.
Attendons les autres épisodes. Nicolas Carreau,
mais l'idée, c'est quand même justement la métaphore de la révolution, quoi.
Oui.
Et si c'est un meurtre là-dedans, bon.
Non, mais sur les deux premiers épisodes, vous le sentez, mais vous le voyez pas vraiment.
Je suis d'accord avec Nicolas. Je sens que c'est cette histoire de meurtre et d'enquête est un peu artificiel, c'est un artifice pour créer des cliffhangers et pour en donner envie de voir l'épisode suivant. Mais
alors, si j'ai bien compris, ça va s'effacer pour effectivement mettre
en avant.
Nous
suivrons ça de près.
La dimension sociale.
Merci Baroque pour vos précieux conseils.
Europe 1.
Grâce aux anecdotes parfois truculentes de nos invités, notamment Jean-Louis Aubert, nous connaissons le New York d'avant.
Et on sort et au coin de la rue, et on voit deux gars habillés en Asie qui étaient en train de se sodomiser sur une poubelle. Quoi.
Nous, on a vécu dans un monde aseptisé. Hein. Mais que devient New York aujourd'hui ? Eh bien, les restaurants étant fermés, les rats y deviennent fous. Xavier Yvon, notre correspondant dans La Grosse Pomme, nous raconte, juste après le nouveau Indochine, nos célébrations sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il perpétue à l'international et notamment aux États-Unis le mythe du French Lover. Après Maurice Chevalier, Alain Delon, il faut désormais compter sur Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 à New York. Xavier et sa devise.
C'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne doit plus draguer.
Alors Xavier, draguer, c'est bien joli, mais il va peut-être falloir surtout penser a dératisé. Dans le monde entier, des phénomènes se multiplient, des canards sur le périph' à Paris, des chèvres dans un village anglais, un cougar, et non pas une cougar dans les rues de Santiago du Chili, des dauphins dans les calanques. On a vu ces images pendant le confinement. Avec l'arrêt de l'activité humaine, la vie sauvage a repris ses droits un peu partout dans le monde. Et chez vous, Xavier, à New York, vous aussi, vous avez des animaux qui se montrent, mais c'est des rats.
Oh.
Oui, on a de la chance. C'est parce que, oui, c'est parce qu'ils ont faim. C'est une conséquence inattendue de la pandémie. Les rats new-yorkais crèvent la dalle. Il n'y a pas que les humains qui ne peuvent plus aller au restaurant. Les rats aussi. Alors nous, on peut toujours se faire livrer. Mais il y a des colonies de rats ici qui se nourrissent des déchets des restaurants. Écoutez bien, depuis des centaines de générations. C'est un spécialiste des rongeurs urbains qui le dit dans le New York Times. Fini donc les gueuletons la nuit dans les poubelles des restos branchés de Greenwich Village, des cantines de Chinatown ou celles de Luigi ou tous les autres restos italiens. Et oui, ça rend les rats agressif au point que le Centre de contrôle des maladies a émis une mise en garde. Le CDC, le CDC, c'est l'agence fédérale qui gère les questions sanitaires et qui a autre chose à faire en ce moment avec le coronavirus. Pas de panique, nous disent les experts ici à New York. Les rats en manque de nourriture sont surtout agressifs les uns envers les autres. Ils se battent et même parfois ils se mangent entre eux. Mais
c'est Fight Club chez les rats, quoi.
Pardon. Exactement. Ils sont susceptibles d'envahir des quartiers plus résidentiels, comme chez moi, pour aller faire des poubelles.
On sent d'ailleurs, ouais.
Exactement. D'ailleurs, j'ai bien lu tous les conseils. Il y en a un, c'est de vérifier qu'il n'y a pas un trop grand espace sous votre porte d'entrée.
Oh,
un demi-inch. Et oui, un demi-pouce, c'est à peu près un centimètre. Ça suffit pour qu'un rat se glisse chez vous, et surtout un rat affamé, c'est compliqué.
Mais pourquoi plus à New York qu'ailleurs, ce phénomène, Xavier ?
Parce que New York et les rats, c'est une longue histoire. On dit que c'est la ville parfaite pour les rats, avec ses égouts, ses restaurants. Et la légende urbaine disait qu'il y avait 5 fois plus de rats à New York que d'habitants. Alors la seule étude sérieuse est plutôt rassurante. Elle estime que c'est plutôt un rat pour 4 New-Yorkais. Ça fait quand même 2 millions de petites bêtes, quand même. Des petites bêtes qui font ici partie du folklore de la vie de New York. Est-ce que vous savez qui est le rat le plus célèbre de New York?
Ratatouille.
Non, il est parisien.
Ah oui, c'est vrai.
Merci de la carotte de suivre. Non, si vous aviez la culture, vous auriez pu me répondre le rat des Tortues Ninja.
Effectivement, oui.
C'est
pourtant ma génération.
Mais c'est des Tortues Ninja.
Le maître. Pardon.
Voilà. Mais c'est pas lui.
C'est des tortues, jamais
dit. C'est pas des rats. Il y a des rats dans les tortues.
Non, mais leur maître, c'est un rat.
Ah, d'accord. Bah,
Disons que Nicolas Caron.
Vraiment compté sur Nicolas.
Vous êtes dans culture Club Dorothée, je vois. Très bien.
Non, alors qui
c'est? En tout cas, c'est pas lui.
Ouais. C'est qui?
C'est pas lui. C'est le rat qu'on appelle Pizza Rat. Le rat pizza, c'est évidemment un surnom. C'est un rat qui a été filmé en train de s'enfiler une part de pizza sur les marches du métro il y a quelques années. Mais comme un vrai New-Yorkais, la vidéo a fait sensation, le tour d'Internet. Et c'est devenu, ici, une sorte de jeu pour les New-Yorkais de filmer des rats dans des situations inattendues. Alors, on a eu le rat Donut, il n'est pas policier, hein. Le rat Café, qui se presse sur le quai du métro avec son gobelet, encore une fois, comme un vrai New-Yorkais. Si,
vous les encouragez aussi, il ne faut pas vous faire.
Vous les trouverez. On leur donne pas de pièces, hein, on les filme. Et on a plus récemment eu le rat Salade avec son bol de chou kale et autres quinoa.
Si les rats commencent à bouffer du quinoa, c'est vraiment inquiétant.
Ouais,
c'est vraiment qu'il n'y a plus rien à bouffer. Hein, parce que le rat, il sait ce qui est bon.
Et ça existe. Et donc, voir des rats à New York, c'était pas rare. Mais maintenant qu'ils sont privés de pizza, de café, de donuts et puis de salade healthy, eh bien, ils vont être encore plus visibles.
Vous en avez vu, Xavier?
Oui, alors le dernier rat que j'ai vu, il n'était pas très en forme. Il était même un petit peu mort. En fait, il était en train de se faire bouffer par un chat de gouttière dans un caniveau. Parce que New York, c'est aussi une jungle urbaine.
Pardon, j'ai pas ri.
Une jungle urbaine, vous avez ri, attention. On ne rit pas. Si Brigitte Bardot nous écoute, même un rat a le droit de vivre. Merci Xavier Yvon. Nicolas, vous connaissez New York?
J'étais allé une fois, c'est vraiment décadent. Hein.
C'est dangereux.
Confirme.
Europe 1.
Du temps où on pouvait accueillir nos invités en studio, l'équipe sauvage n'était pas que des gloussements et des galéjades. C'était aussi de grands entretiens. Principe simple, une star d'envergure mondiale, une question percutante, un scoop. Comme avec Catherine Sellac. Vous vous baignez à Saint-Malo?
Oui, je me baigne à Saint-Malo.
À quelle température pouvez vous baigner, Catherine Sellac?
Eh bien, jusqu'à 15.
Il y a vraiment eu des grands moments dans cette
émission.
Mais
pourquoi on a parlé de ça, quoi?
Mais j'en ai aucune idée. Aujourd'hui, retour sur notre rencontre avec le prodige du théâtre français, le cercle des illusionnistes, Edmond, le porteur d'histoire. Toutes ces pièces qui cartonnent, c'est lui, Alexis Michel et Cassu.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage.
Lundi, nos invités seront enfin de retour en studio. En attendant, on se remémore les bons moments du temps jadis quand les stars accouraient à notre micro, grisés par la réputation d'excellence de notre émission. Et comme Jean-Paul Rouve, ils étaient rarement déçus.
C'est complètement con. Voilà, je peux vous dire mieux, c'est con.
Le 18 septembre dernier, nous recevions le petit prince du théâtre français, auteur notamment du Cercle des Illusionnistes et d'Edmond, Alexis Michalik, nous présentait un roman. Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour, bonjour.
Comme vous aviez un peu de temps entre deux pièces, entre deux films, puisque vous êtes aussi réalisateur, vous avez écrit un roman de 650 pages, évidemment, Loin, paru chez Albin Michel. Comme vous n'avez plus de place pour les Molières sur la cheminée, vous avez dit, je vais aller chercher le Goncourt.
Oui, voilà, c'est complètement mon moteur, hein. Ce sont les récompenses, donc c'est pour ça que j'écris ce roman. Non, pas du tout, évidemment.
Alexis, on va parler de votre livre, ce premier roman que vous signez chez Albin Michel, intitulé Loin. Mais avant toute chose, comme tout le monde, hélas, ne va pas au théâtre, on va détailler quand même ce qu'est le phénomène michelique. C'est quatre pièces qui se jouent, je le disais, simultanément depuis plus de 3 ans, quatre pièces dont vous avez forcément entendu parler, Intramuros, Le Cercle des Illusionnistes, Le Porteur d'Histoire ou Edmond. Quatre pièces brillantes, mais où on ne s'ennuie pas une seconde, où les rebondissements s'enchaînent. Comment vous définiriez votre théâtre à quelqu'un, si ça existe encore, qui ne connaît pas Alexis Michel?
C'est très gentil, merci pour cette introduction.
À la Michel Drucker.
Voilà, tout à fait. Je dirais que c'est un théâtre populaire et exigeant, c'est un théâtre de compagnie, c'est un théâtre où il n'y a pas de vedette, si ce n'est le spectacle. Et puis, je pense que, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est un théâtre qui me permet d'utiliser toutes mes influences, et mes influences, ça n'est pas, elles ne sont pas que théâtrales. Elles viennent aussi de la série, elles viennent aussi du roman, elles viennent aussi du cinéma. Et donc, une sorte de théâtre sériel, quoi, où on suit une histoire et on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. Et donc, quand on en sort, on n'a pas trop envie de dévoiler la fin à ses amis. Et si ça nous a plu, en tout cas, on a envie de leur dire juste, va voir le spectacle. Et c'est comme ça que ces spectacles durent depuis des années.
Si je vous dis qu'il y a du Alexandre Dumas chez vous, ça vous flatte? Ça vous
Bien
plaît
sûr.
Ça, c'est une référence importante pour vous?
Évidemment, c'est un des auteurs préférés de ma mère. Moi, j'ai découvert Dumas quand j'étais ado sur une plage en lisant Le Comte de Monte Cristo et en étant complètement happé par sa capacité à tenir le lecteur en haleine. Et c'est dans Loin, en tout cas dans mon roman, il y avait vraiment Dumas en tête. Je voulais faire modestement un bon roman d'été.
Il s'intitule Loin chez Albin Michel. Déjà, pourquoi passer au format du roman?
Eh ben, pour des raisons économiques. Non, parce que tout simplement, moi, on va dire que les histoires s'emparent de moi. Elles arrivent par divers biais, et ensuite je les développe dans ma tête. Et à un moment, en fait, elles arrivent à maturation, et je me dis bon, maintenant, qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une pièce? Ou est-ce que c'est, comme le cas de Loin, un roman? Et comme c'était un roman d'aventure qui, je savais, allait être assez long, assez ample, et allait traverser à la fois les pays et les siècles, enfin pas les siècles, mais en tout cas les années, les périodes, les époques, je me suis dit qu'il fallait que le plus simple pour raconter cette histoire, ce serait de l'écrire tout simplement.
Vous écrivez comment, Alexis Michel? Vous vous dites aujourd'hui, de telle heure à telle heure, j'écris quoi qu'il arrive, quelle que soit l'inspiration, ou vous attendez d'avoir l'inspiration et vous écrivez tout en une nuit?
Non, comme je cumule quand même plusieurs autres métiers, on va dire, la mise en scène, je joue, je fais plein de choses, donc je n'ai pas tout le temps l'esprit libre pour écrire, et il faut que je l'aie cet esprit libre, surtout pour un projet comme Loin qui était un peu, je vais pas dire mon projet annexe, mais qui était quand même quelque chose que j'ai écrit pendant que je montais d'autres spectacles, Edmond, que je réalisais le film, etc. Donc vraiment c'était quand j'avais l'espace nécessaire de l'écrire, et souvent c'était quand j'étais en voyage, par exemple quand je suis en tournage dans un autre pays et que je vais tourner 2-3 jours par semaine, et le reste du temps j'ai du temps, j'ai pas de pièces qui se jouent, j'ai pas d'acteurs à embaucher ni à former, et donc grâce à ce temps libre, je peux le consacrer à l'écriture.
Passionné d'histoire, ça on le savait déjà depuis vos pièces, passionné aussi de philosophie, il y a des questions philosophiques qui traversent le livre. Alors, vous avez une phrase qui est amusante et surprenante, vous dites « Je n'ai pas l'air intelligent, j'ai une tête de surfeur, pas d'intellectuel. Certains amis ont été surpris que je puisse avoir un point de vue de philosophe sur certaines questions. » Soit vos amis n'ont pas vu vos pièces, parce qu'elles étaient déjà assez denses intellectuellement, vos pièces quand même.
Ça dépend. Disons que dans un livre, on a le temps de développer des idées que dans une pièce, forcément, on a 2 heures, c'est juste mathématique, c'est plus court, quoi. Mm-hmm. Donc il y a certains passages où les héros dialoguent et parlent de leur vision de la vie, et forcément, j'ai plus de temps de développer certaines idées qui, moi, dans les pièces, je suis quand même un peu connu pour mon efficacité narrative, et donc je ne m'attarde pas à discuter, à philosopher, quoi.
Europe 1.
À suivre, en ces temps anxiogènes, il est notre shot quotidien d'optimisme, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, et ce qu'il est coutume d'appeler une heureuse nature.
Non mais vous imaginez qu'on découvre par exemple que le pâté en croûte immunise contre le coronavirus. Mais ce serait merveilleux.
Bien sûr, ça serait formidable, Olive. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Délice in extremis, la recette qui vous sauve la mise arrive.
L'équipe sauvage, Mathieu Noël.
Accueillons à présent l'homme au foie pas comme les autres. Un jour, Nicolas Carreau est tombé sur ses analyses, et quand il a vu son taux de cholestérol, il s'est exclamé.
Oh mon Dieu.
Pourtant, à l'issue d'un confinement en forme d'orgie calorique, Olivier Pouls n'a aucune intention de lever le pied sur la graisse de canard. D'ailleurs, si jamais un jour vous dînez avec lui au restaurant, évitez de commander des légumes vapeur.
Quoi ? Il va pas être grossière en plus. Ici, on prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitelle, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là ? Plaisir.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis.
C'est tout vous, ça. Ouais,
Eddie Mitchell
vous, hein.
dans Le Bonheur et dans le Pré.
En fait, je crois qu'ils se sont inspirés de ma vie pour écrire le film.
Ça doit être ça. C'est un biopic déguisé.
Vous avez une Renault comme voiture ?
Non, c'est
pour
fini.
Ceux qui ont vu le film. Ils
Olivier,
comprendront.
Vous avez une commande aujourd'hui.
Oui, une commande qui m'était passé hier par Ève Roger dans ce studio qui m'a dit, dis donc demain, est-ce que tu pourrais pas nous donner la recette d'une tarte sympa, facile, salée évidemment, à réaliser à la maison, parce qu'elle en a un peu marre de faire toujours la même. Je crois que j'avais donné une recette de tarte il y a 6 mois et je crois que ça fait 6 mois qu'elle mange la même. Donc elle voudrait renouveler un tout petit peu. Et alors j'ai un cadeau pour elle puisque j'ai la recette de cette tarte qui va peut-être parler un peu à Eva aussi. Puisque, alors écoutez bien.
Une fougasse.
Une quiche. Ah, non, mais
dis
c'est.
Donc oh,
le perpétuel.
Mais qu'est-ce que vous c'est Mathieu Noël.
On l'a identifié.
Ah bah oui, vous avez alors, mon point, vous pouvez vous le garder. Hein, alors là.
Alors, il vous faut pour cette tarte une pâte feuilletée par exemple, que vous allez installer dans un moule et que vous allez cuire à blanc, donc c'est-à-dire
préfet
cuire confortablement, avec par-dessus une petite feuille de papier sulfurisé, des haricots secs pour éviter qu'elle ne gonfle au moment de la cuisson, et vous allez la pré-cuire pendant un quart d'heure. Et pendant ce temps, vous allez faire l'esprit d'une ratatouille. On commence à avoir les premiers légumes de printemps de qualité. Pas des saloperies qui viennent du sud de l'Espagne gorgées d'eau, non, des trucs qui ont vraiment du goût et qui sont français, s'il vous plaît. Alors courgettes, aubergines, oignons, poivrons. Les tomates, c'est encore pas ça, il faut bien le reconnaître.
Elles c'est pas encore la saison.
Non, on n'est pas vraiment... La vraie saison de la tomate va débuter à partir du 15 juin pour les tomates du sud, mais elles n'auront vraiment du goût qu'à partir du mois de juillet. Donc on peut éventuellement prendre quelques tomates les plus mûres possibles, cuisiner sa passe, ou, pourquoi pas, un bon coulis de tomate en boîte, il y a des choses de qualité. Et donc on va réaliser l'esprit d'une petite ratatouille. On va faire compoter tout ça tranquillement ensemble. On va y rajouter, alors ça c'est optionnel ma chère Eva, quelques dés de mozzarella, mais moi je trouve ça très bon. Et ensuite on va casser 3 œufs dedans. On va tout mélanger à nouveau et on va remplir notre pâte avec ce mélange qu'on va finir de cuire au four après l'avoir saupoudré d'un petit peu de parmesan. Là aussi c'est optionnel. Cuisson au four pendant 20
chaleur
minutes.
Chaleur tournante.
Chaleur tournante évidemment. Et là vous avez une tarte avec une pâte feuilletée croustillante, l'esprit de cette délicieuse ratatouille. Et puis le tout est lié avec un œuf. J'ai omis de dire qu'on pouvait évidemment aussi rajouter plein d'herbes là-dedans au moment où on va les faire, du basilic par exemple, du thym. Amusez-vous avec ce que vous avez.
Et moi alors, je fais tout le temps.
Voilà.
En fait, ouais. Dès que je fais une ratatouille, je garde un peu de la ratatouille pour en faire une tarte salée. Mmh. Mais je fais une pâte brisée, je ne fais pas une pâte feuilletée. Voilà. Vous
ça,
êtes content ?
Ça, c'est une information. J'ai voilà. Beaucoup de messages là qui me disent très, information très, très pertinente des Baroques
mais c'est quand même
qui
important.
Nous auraient manqué. C'est vraiment le complément idéal à cette chronique.
Miss Ratatouille, c'est moi.
Miss Ratatouille, c'est Miss Ratatouille alors. 86 et 87.
Mais
c'est
pas
vous.
88.
Mais pas 88.
Pardon, à nos auditeurs, là, c'est vraiment la private joke. Non. On peut renvoyer les auditeurs. C'est un sketch de François Damiens dans les caméras cachées de François Damiens. Oui, c'est le sketch du. On peut le conseiller à nos auditeurs, ça peut être marrant.
Du sommelier.
D'aller voir le sketch du sommelier où il joue François Damiens, joue un sommelier absolument infect, où il explique qu'il était champion du monde des sommeliers 2003, 2004, pas 2005, mais 2006, 2007. Enfin bref, je vous le conseille, c'est beaucoup plus drôle quand c'est François Damiens ce qu'il fait. Merci beaucoup, Olivier Pouls, pour votre recette.
C'est compliqué de raconter un sketch.
Oui, c'est très, très dur. J'ai senti que je m'enfonçais. Mais en même temps, j'avais envie de partager avec nos auditeurs pour qu'ils puissent cliquer sur YouTube et aller le voir. Merci, Olivier. À demain.
Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est le moment fatidique, le moment où la France entière suspend son souffle pour se poser la question qui sera élu chroniqueur du jour. C'est l'heure du qui tout double. Nos journalistes en compétition ont 10 secondes pour nous inciter à voter pour eux. Un moment révélateur de la personnalité mesquine de certains, comme on pouvait le constater à l'époque où l'invité était encore en studio pour voter.
Alors, Axel...
Bah quoi ? Non, ça part mal, là.
Axel...
J'aime pas ça.
Vous êtes un gentil garçon.
Non, pas de mai, pas de mai.
C'est quand même pas facile. Votre histoire et puis...
Bah moi, j'achèterai pas votre livre.
Aujourd'hui, c'est pire, Axel, c'est Eva et moi qui votons. Alors,
oui.
Dites-nous, pourquoi devrions-nous voter pour vous, justement, Axel, aujourd'hui ?
Parce que j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, de ne pas m'adresser à votre zizi, mais à votre cerveau et à votre portefeuille. C'était une chronique intelligente sur comment gagner plus d'argent.
Bah alors moi, je me sens tout de suite exclu parce que vous venez de dire, mais c'est pas grave.
Si les filles aussi ont un zizi ?
Oui.
Ah bah si, on parle du zizi des filles, il faut arrêter de regarder.
Ça dérape, ça s'appelle
une zézette. Alors, je pense que ça s'appelle une zézette plutôt,
oui,
Axel.
Plutôt, ouais.
Ah bon ? Oh oui. Moi, je ne m'adresse pas aux zizi et à la zézette, je parle au cerveau. Et là, les filles et garçons ont tous les deux un cerveau.
C'est vrai, c'est vrai. On va appeler vos enfants quand même.
Jamais personne ne s'était autant enfoncé au moment du kit tout double. C'était magnifique, Axel. Anis Mbida, pourquoi voter pour vous?
Et parce que moi aussi, j'ai fait appel au cerveau, justement, qui veulent jouer avec leur zizi après. Que justement, il faut savoir séduire en utilisant le verbe, en utilisant les mots. Et puis, entre parenthèses, j'ai fait honneur à notre invité en parlant de sexe, mais de façon un peu plus subtile que
c'est vrai. Notre invité Zep. Qui était Zep, voilà. L'auteur du guide du zizi sexuel. Et évidemment de Titeuf. Nicolas Caro, pourquoi voter pour vous aujourd'hui?
Parce que je vous ai donné une belle, très belle idée de balade dans votre propre ville. Et par les temps qui courent, c'est quand même utile quoi, de ne pas trop s'écarter de sa ville.
Xavier Yvon, pourquoi voter pour vous en duplex de New York?
Et bien par pitié.
C'est pas mal.
Non mais c'est vrai, nous en plus du coronavirus à New York, on a des hordes de rats agressifs. D'ailleurs, il y en a qui sont en train de me passer entre les jambes au moment où on se parle. Et en plus, on nous annonce une saison des ouragans encore pire que d'habitude. Donc les 7 plaies d'Égypte à New York, ça mérite un vote.
Xavier, personne ne m'avait fait le coup de par pitié. Je vote pour vous. Un point pour Xavier Yvon. Eva.
Par pitié, je vote pour Xavier Yvon.
Aussi,
ah oui.
Attention. Alors donc ce sont les auditeurs qui vont départager nos champions.
Non, mais non, vous avez encore.
J'ai encore bien Romain. Je l'oublie tout le temps alors qu'il passe son temps à me faire des petits clins d'œil, ce coquinou en régie. Romain, qui est notre réalisateur, pour qui votez-vous aujourd'hui?
Mathieu, je vais voter pour Xavier Yvon et ses rats de New York.
Oh, Xavier Yvon qui a déjà gagné, mais. Que disent nos auditeurs?
Bah, grand chelem, Xavier Yvon.
C'est le grand chelem, le big chelem, comme on dit aux États-Unis. Bravo, Xavier Yvon remporte la 181e journée de l'équipée sauvage pendant que Axel de Tarlé fait pousse vers le bas. C'est ça que vous
C'est ce que ça m'inspire, ce vote.
L'hégémonie américaine.
Je remercie mes équipiers du jour, Eva Roque, Axel de Tarlé, Anis Mbida, Nicolas Caro, Xavier Yvon et Olivier Pouls, Romain Causeur et Christophe Piron en régie, et mes télétravailleurs de l'ombre, Philippe Amardet, Claire Dutronc, Oriane Lévy et Sébastien Bordenave qui préparent entre autres le mix. L'équipe est sauvage revient demain à 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs pour votre grand journal.